Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Comment un État démocratique aujourd'hui peut-il se défendre face aux grands dangers du monde actuel tout en respectant les libertés individuelles ? Un peu de précision. Aujourd'hui, c'est-à-dire depuis les attentats du 11 septembre, qui semble-t-il, c'est une hypothèse, ont changé notre perception des dangers. Guerre, catastrophes naturelles, pandémie, terrorisme et catastrophes industrielles ou d'origine anthropique existent depuis toujours, même si le mot « toujours » n'existe pas en histoire. Mais le changement de notre perception des dangers et la réalité de ces dangers apportent des réponses nouvelles en droit. Des réponses que les gouvernements et les États n'auraient pas forcément prises. Quelles sont ces réponses et quelles questions posent-elles à leur tour ? Voilà peut-être résumé l'angle et le sujet principal qu'analyse Mireille Delmas-Marty du Collège de France, membre de l'Institut, dans son dernier ouvrage « Liberté et sûreté dans un monde dangereux » qui sort en février 2010 au Seuil. Si le temps de tous les dangers est une réalité, les réponses sont compliquées et enchevêtrées sur le plan du droit. Comment défendre les démocraties dans un pareil contexte ? Comment garantir l'état de droit et la sûreté de l'État ? Faut-il restreindre les libertés des individus devant les dangers du terrorisme ou du climat ? Liberté et sûreté dans un monde dangereux, le dernier opus de Mireille Delmas-Marty interroge sur la déshumanisation du droit pénal et la radicalisation du contrôle social depuis le 11 septembre. L'occasion pour elle de porter à la connaissance du public son regard sur le monde actuel, un monde dangereux, selon les termes d'un rapport remis à l'ONU en date du 1er décembre 2004. Mireille Delmas-Marty, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu de la dangerosité du monde actuel ?
Je ne veux pas prétendre que le monde actuel soit un nouveau monde où les dangers seraient brutalement apparus. Quand je dis le temps de tous les dangers, ce n'est pas ça que je veux dire. Les dangers ont toujours existé en tout temps et en tout lieu. Mais il y a peut-être quelque chose de nouveau qui serait leur imprévisibilité, accrue sans doute par les nouvelles technologies notamment, à tel point que la visibilité des dangers est également plus grande. Quand il y a des attentats à l'autre bout de la planète, on le sait aussitôt. Et c'est vrai que les attentats du 11 septembre, de ce point de vue-là, ont peut-être rendu encore plus visibles les dangers actuels. Alors, ce sont des dangers extrêmement variés. Je n'en ai pas fait un inventaire exhaustif parce que mon travail, c'est un travail de juriste. Donc, je travaille essentiellement sur les réponses aux dangers. Mais je n'ai pas voulu être hypocrite et dire qu'il faut respecter parfaitement l'état de droit sans se préoccuper de la sécurité. La sécurité, c'est un problème qui préoccupe tout le monde et c'est aux juristes d'arriver à trouver les bonnes réponses. Alors, j'ai quand même insisté sur le fait que les dangers sont bien réels, qu'il s'agisse des dangers pour les personnes, pour les États ou même pour la planète. Et en un mot, je dirais les dangers pour les personnes, ben, il suffit de se référer aux statistiques, elles valent ce qu'elles valent parce que les problèmes de comptage sont toujours difficiles. Enfin, d'après l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, les atteintes à l'intégrité physique des personnes, c'est-à-dire ce qui est ressenti le plus violemment par les victimes, ont augmenté régulièrement depuis une quinzaine d'années, même doublé. Maintenant, quand il s'agit des dangers pour les États, il y a un rapport qui avait été demandé par le secrétaire général des Nations Unies à un groupe de personnalités, de sages en quelque sorte. Et c'est un rapport qui a été remis en 2004, je crois qu'il reste tout à fait valable à l'heure actuelle, où il énumère, on retrouve le terrorisme, mais il ajoute la pauvreté, la maladie, la guerre civile, et on ajouterait bien sûr maintenant aussi la crise économique et financière. Et puis les dangers pour la planète, bien, ce sont de tout temps, je dirais, les catastrophes naturelles, mais auxquelles s'ajoutent ou avec lesquelles se combinent maintenant des catastrophes technologiques. Il faut penser aux armes de destruction massive, il faut penser au terrorisme qui peut devenir nucléaire. Et puis, alors, dans un tout autre domaine, le changement climatique, danger pour la planète, danger pour les générations futures.
Alors, qu'est-ce qui est aussi à l'origine de votre livre ?
En 2008, j'ai été frappée par une nouvelle loi qui a été adoptée en février, qui porte sur l'internement de sûreté. Alors, ce qu'il y a de nouveau dans cette loi, c'est qu'il s'agit de permettre l'incarcération d'une personne après qu'elle ait déjà exécuté sa peine. Elle est condamné pour une infraction. Alors, il y a une liste d'infractions qui est assez importante dans la loi. Il faut qu'elle ait été condamnée, mais pas nécessairement qu'elle soit en état de récidive. Alors, elle est condamnée pour une infraction. Quand ce sont des infractions lourdes, ce sont des peines de prison, disons, privatives de liberté. Elle exécute sa peine et sur le seul motif de sa dangerosité, on peut la maintenir incarcérée pour une durée d'un an qui est renouvelable indéfiniment. Alors, c'est ça qui me pose problème et c'est à partir de là que je me suis interrogée en me disant comment a-t-on pu en arriver à là, à ce résultat ? Est-ce que c'est purement français ? Et très vite, je me suis aperçue qu'il y avait un exemple pas loin de chez nous, avec l'Allemagne, qui a en fait un système tout à fait voisin, dont probablement le législateur français s'est inspiré. Mais c'est un système qui n'est pas très rassurant parce qu'il remonte à une loi des années 30, une loi de 1933, qui n'avait pas été abrogée mais qu'on n'appliquait plus guère, qui n'avait pas été réutilisée à l'époque des années 70 du terrorisme en Allemagne, mais qui a été réactivée précisément aux alentours du tournant du XXIe siècle. Et la Cour constitutionnelle allemande s'est prononcée sur cette loi en 2004 pour la considérer comme valable
par rapport
à la loi fondamentale allemande, c'est-à-dire aux principes constitutionnels allemands qui sont pourtant très protecteurs. Et puis tout récemment, puisque ça date de décembre 2009, l'Allemagne vient d'être condamnée pour avoir, par cette loi, violé un certain nombre de principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, l'affaire allemande, qui s'appelle l'affaire Mucke, a maintenant été renvoyée à la demande du gouvernement allemand devant la Grande Chambre. Donc, l'histoire n'est pas terminée. Mais c'est une histoire que je trouve assez significative des dérives possibles, puisqu'il s'agit d'une personne qui n'était pas un enfant de cœur. Il avait commis un certain nombre de petits délits. Et puis, il est arrêté et condamné pour vol à main armée et tentative de meurtre. Et là, il est condamné à 5 ans d'emprisonnement. Or, avec le système de l'internement de sûreté, ça fait maintenant plus de 24 ans qu'il est incarcéré. Donc 5 ans pour exécuter sa peine et presque le triple au nom de l'internement de sûreté. Et c'est ce que fait d'ailleurs remarquer la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt de décembre.
Alors, sur des affaires pareilles et des dérives du droit, comme vous venez de dire, que pense une spécialiste du droit comparé comme vous, Mireille Delmas-Marty, donc des armes et des failles du droit pour faire respecter l'état de droit depuis le 11 septembre. Vous abordez ces thèmes dans votre livre et au-delà de la globalisation des dangers, vous avez identifié des glissements dans le droit. Quels sont-ils ?
Oui, alors avant d'aborder les glissements, peut-être un mot sur cette date du 11 septembre, parce que c'est vrai qu'elle constitue une sorte de bifurcation pour le droit américain d'abord, mais aussi pour l'ensemble des pays, y compris des pays démocratiques. Parce qu'au lendemain du 11 septembre, il y a eu une sorte de déclaration de guerre contre le terrorisme, mais pas comme une métaphore, comme une réalité,
c'est-à-dire
des pouvoirs donnés au président comme chef des armées, des pouvoirs de légiférer directement et de légiférer sans respecter les principes de la Constitution américaine. Alors, compte tenu de l'émotion qu'avaient suscité ces attentats dans le monde entier, puisqu'on les a presque vécus en direct à la télévision, et compte tenu de ces réactions très fortes d'une de nos grandes démocraties, il y a eu un effet, je dirais, à la fois sur la perception des dangers, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi sur les réactions aux dangers, sorte d'effet de libération d'un tabou. On ne touche pas à l'état de droit si, quand il y a vraiment des dangers aussi menaçants, eh bien, on peut utiliser un droit d'exception, on peut utiliser des lois dérogatoires, on peut contourner ou détourner l'état de droit. Et c'est ça qui m'amène à la question qui était la question des glissements de l'état de droit. Alors, il y a plusieurs types de glissements. Ce qui est le plus visible dans les constitutions, c'est la notion d'état d'exception. Quand il y a des circonstances exceptionnelles, qui peuvent être une situation de guerre, qui peuvent être un danger qui menace la nation. Il y a des pouvoirs exorbitants qui sont transférés du législatif à l'exécutif. En gros, il y a un transfert de pouvoir en direction de l'exécutif et il y a en même temps des dérogations possibles aux droits fondamentaux. Mais traditionnellement, qui dit exception, dit situation provisoire, transitoire et pas permanente. Le problème, c'est qu'il y a une différence importante entre la guerre au sens traditionnel et le terrorisme. C'est que la guerre, vous pouvez la situer dans le temps. Vous avez une déclaration de guerre, un accord de paix. Quand il s'agit de terrorisme, même si c'est ce que nous connaissons maintenant, un terrorisme global qui est lancé à l'échelle de la planète et qui vise pratiquement tous les pays. Alors quand il y a un terrorisme global, comment dire à partir de quel moment l'état d'exception va prendre fin ? On risque d'avoir un état d'exception permanent, ce qui est tout de même un peu inquiétant pour la démocratie et pour les libertés. Et puis, il y a d'autres formes, alors moins visibles, de ce que j'ai appelé les glissements de l'état de droit. Il y a, sans invoquer l'état d'exception nécessairement, tous les pays n'ont pas invoqué l'état d'exception après le 11 septembre. En France, par exemple, on ne l'a pas invoqué, chez nos voisins non plus. Alors, il y a une autre voie possible, c'est le contournement de l'état de droit, c'est-à-dire qu'on utilise des procédures dérogatoires. On a des règles de base, et puis, dans telle ou telle loi contre le terrorisme ou contre la criminalité organisée, on a des règles dérogatoires. J'ai une collègue qui dit, elle appelle ça les circuits bison futés. On va éviter telle ou telle règle protectrice, tel ou tel droit fondamental qui en principe est garanti, mais qu'on va affaiblir par ces procédures dérogatoires. On peut aussi contourner les institutions compétentes. On remarque que dans un certain nombre de pays, il y a des institutions protectrices qui sont permanentes. En France, on a la Commission nationale informatique et liberté, on a la Commission nationale consultative des droits de l'homme, on a la Haute Autorité sur la lutte contre les discriminations. Mais face à ce type de danger que représente le terrorisme ou autre, il y a une tendance à contourner ces institutions, à ne pas les saisir et à créer des commissions qu'on appelle ad hoc, des commissions spéciales composées spécialement. C'est aussi un risque de dérive. Et puis alors, à l'échelle mondiale, ce qu'on observe, et ce qui est vrai notamment très présent dans l'évolution des États-Unis, c'est une sorte de détournement de l'état de droit, dans la mesure où l'État ne peut plus exercer lui-même toutes ses fonctions régaliennes. Il est submergé par sa volonté de tout réprimer, de tout prévenir. Donc il y a un transfert de pouvoir qui se fait à l'armée, souvent. Et c'est ce qu'ont fait les Américains en créant des commissions militaires, qui ne sont ni des tribunaux militaires, ni des juridictions de droit commun, qui sont totalement hors normes d'état de droit. Et puis, la privatisation. Et ça, c'est un des dangers actuels.
La privatisation très grave, de cette force.
L'usage de la force publique, que ce soit police ou armée, soit sous-traité à des sociétés privées. S'il s'agit par là pour un État d'échapper à sa responsabilité en cas de bavure, c'est très inquiétant.
Vous observez que l'évolution récente du droit radicalise le contrôle social et que les personnes, justement, encourent de nouveaux dangers. Comment est-ce possible ?
Alors, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de réprimer, il faut prévenir. Et là, tout le monde sera d'accord. Il vaut mieux prévenir les attentats du 11 septembre que de réparer les dégâts en partie réparables après. Donc, la prévention, le seul problème, c'est quand elle va trop loin, quand on veut arriver à une situation qui serait risque zéro.
Vous parlez du mythe,
ce qui est un
risque zéro.
Qui est un mythe. Et le problème de la prévention, c'est de savoir jusqu'où on peut aller au nom de la prévention.
Alors, ce qu'on constate, comment on peut l'inscrire dans le droit, cette prévention ?
Alors, ce qu'on constate à l'heure actuelle en termes de prévention, c'est quand même une multiplication inquiétante des fichiers. Qui est d'ailleurs pas quelque chose de propre à la France.
Vous avez les tout le temps Anglais, cette double approche. Hein,
les Anglais, les Allemands font la même chose. Mais il y a une multiplication, on crée des fichiers de plus en plus nombreux. Avec les nouvelles technologies, on peut les interconnecter les uns par rapport aux autres. On y ajoute la biométrie, tout ce qui concerne la mesure du vivant. Et on arrive à ce concept que je trouve un peu effrayant quand on le transpose d'un produit dangereux à un être humain, de traçabilité. Il faut pouvoir repérer à tout moment où se trouve telle ou telle personne. On avait tenu le grand colloque de rentrée de l'Académie sur le thème de la lumière et je me souviens qu'Éric Orsenna avait fait un éloge de l'ombre en disant « on ne peut pas être dans la lumière en permanence, il est bon qu'il reste quelques zones d'ombre ». Alors avec les fichiers, avec la biométrie, avec la traçabilité, il ne reste plus beaucoup de zones d'ombre.
Marquons une courte pause et retrouvons-nous dans quelques instants. Thank you. Mireille Delmas-Marty, les États se sont-ils fragilisés ? Est-ce que l'état de droit est-il menacé ?
Oui, je crois qu'il y a une très heureuse formule de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne date pas d'ailleurs du XXIe siècle, qui date de 1978, dans une affaire concernant, c'était l'époque du terrorisme en Allemagne, et c'est une affaire qui concernait l'Allemagne. Et dans cette affaire, la Cour européenne dit « Attention de ne pas détruire la démocratie au motif de la défendre ». Alors c'est très exactement ce qu'elle a répété dans le contexte post-11 septembre, en 2008, dans une affaire concernant l'Italie, où il s'agissait de savoir si une personne soupçonnée de terrorisme pouvait être renvoyée dans son pays d'origine, la Tunisie, où elle risquait la torture. Alors l'argument, c'était de dire « il faut le renvoyer parce que c'est quelqu'un de très dangereux ». Et la réponse de la Cour est la même qu'en 1978, ne pas détruire la démocratie au motif de la défendre, c'est en l'occurrence ne pas permettre la torture, le droit de ne pas être torturé, le droit d'être traité en être humain, quels que soient les crimes qu'on a commis, c'est absolument fondamental, c'est la base même de l'état de droit, c'est la base même de la démocratie.
C'est comme ça que les démocraties peuvent réagir, se défendre ?
Donc, la défense de la démocratie, c'est d'appliquer des principes, même dans les situations de danger. Ça ne veut pas dire qu'on doive céder à une sorte d'idéalisme un peu irréel, parce que la Cour européenne des droits de l'homme reste très réaliste. Elle est consciente du fait que les États doivent faire face aux situations dangereuses. Dans l'affaire Mouqueux dont je vous ai parlé à propos de l'Allemagne, la Cour dit ce qu'il aurait fallu faire, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de dire l'Allemagne a violé tel ou tel principe de la Convention. Elle dit « afin d'atteindre », je cite l'arrêt lui-même parce que ça montre que réalisme peut rimer avec idéalisme. Elle dit « afin d'atteindre l'objectif consistant à prévenir la criminalité, il faut que les États fassent un certain nombre de choses ». Et alors elle énumère un niveau élevé de soins, donc qui sont donnés à ces personnes incarcérées pour leur dangerosité, une équipe pluridisciplinaire, un travail intensif à caractère individuel avec les détenus. Elle ajoute même « il faut des plans individualisés préparés rapidement, le tout dans un cadre cohérent ». Afin d'assurer une progression en vue de la libération. Et elle conclut, la libération doit constituer une possibilité réelle. Autrement dit, il y a une solution possible entre, disons, le laxisme et la surrépression. Alors évidemment, ça coûte cher, mais la prison aussi coûte cher. Donc il faut chercher cette voie-là, cette voie étroite, mais qui est la seule raisonnable.
Alors, vous parlez des dangers planétaires qui menacent la planète. Vous en faites l'inventaire et vous parlez dans votre livre des réponses que le droit a tenté d'apporter à ces problèmes ces dernières années. Quels sont ces dangers ?
Alors, ces dangers, ils sont d'ordre très différent. Comme je le disais tout à l'heure, ils peuvent tenir à des catastrophes naturelles. Bon, on a tous à l'esprit l'exemple du tremblement de terre en Haïti. Mais ils peuvent tenir aussi à des accidents technologiques, comme ces vaisseaux, et très souvent à une conjonction des deux. Les problèmes liés au changement climatique, c'est une sorte de conjonction de facteurs multiples, et la menace que représente le changement climatique, le réchauffement progressif pour la planète, elle appelle aussi une réponse planétaire. De même, quand vous avez une épidémie généralisée ou qui risque de se généraliser, de même dans d'autres domaines, avec ce que j'ai cité tout à l'heure, le terrorisme nucléaire, l'utilisation d'armes de destruction massive, tout cela concerne la planète tout entière. Ce qui est nouveau, c'est peut-être qu'avec le développement technologique, les effets sont en pleine expansion, extension et expansion, à la fois, je dirais, dans l'espace et dans le temps. Parce que la pollution ne s'arrête pas aux frontières nationales. Les armes de destruction massive non plus. Donc les effets en termes d'espace se développent dans l'espace planétaire. Mais il y a aussi une extension dans le temps, parce que les effets du changement climatique sont illimités dans le temps. Ce n'est pas simplement une catastrophe qui survient à un moment donné. Les effets peuvent se dérouler sur plusieurs générations, d'années, plusieurs générations. Donc les problèmes posés sont nouveaux et c'est extrêmement difficile pour les États d'y répondre, parce qu'un État, il est souverain bien sûr, mais il est souverain sur son territoire. Et il est souverain au présent. Il n'est pas supposé, ça avait même été écrit dans la Constitution française de 1791, un État n'est pas supposé légiférer pour les générations futures. Et Jefferson aux États-Unis avait même fait une comparaison en disant « légiférer pour les générations futures, c'est comme si on légiférait pour un État étranger ». Donc cette notion de génération future et de protection des générations futures, elle est nouvelle.
Vous parlez-vous de remise en cause de la territorialité dans le droit ?
Exactement, parce que face à ces dangers planétaires, tous ceux que j'ai énumérés, vous pouvez en ajouter d'autres, la cybercriminalité par exemple. Un État peut bien sûr avoir quelques réponses à l'échelle nationale, mais il ne résoudra pas le problème dans son ensemble. Donc il y a une perte des repères dans l'espace. Et puis il y a cette perte des repères dans le temps sur laquelle je ne reviens pas, mais qui est aussi quelque chose de nouveau et qui est très déstabilisant par rapport au droit national classique.
Quelles sont les réponses apportées par le droit ces dernières années face à ces nouveaux dangers-là, justement ?
Alors, le problème, c'est que la conception traditionnelle, c'est-à-dire un droit qui est identifié à l'État, avec un ordre international qui est simplement interétatique, c'est-à-dire qu'on coordonne, mais chaque État reste souverain, disons que c'est une conception qu'on pourrait appeler souverainiste,
oui.
Elle n'est pas satisfaisante parce que les États sont débordés. Alors, débordés au sens propre, certains effets se situent au-delà de leurs frontières, certaines causes se situent en dehors de leurs frontières, mais ils sont débordés aussi au sens figuré face à l'ampleur des désastres. Un État seul, même une superpuissance, ne peut pas faire face. Il y a une interdépendance qui a toujours existé, mais qui s'est considérablement accrue à l'échelle de la planète.
Une interdépendance donc, comme un effet de domino si l'un est menacé.
Exactement. Ce qui arrive dans un État se répercute dans un autre. Si un petit État n'arrive pas à lutter contre une épidémie, peut-être qu'elle va se répandre et qu'une grande superpuissance n'arrivera trop tard pouvoir stopper l'épidémie. Donc cette interdépendance, c'est quelque chose qui met en cause la conception traditionnelle d'un ordre mondial souverainiste.
Voilà, vous dites l'ordre souverainiste est débordé au sens littéral, mais vous avez expliqué même au-delà.
Au sens littéral et au sens figuré. Alors, quelle autre réponse donner ? À l'autre extrémité, en quelque sorte, la conception qu'on pourrait avoir de l'ordre mondial, ce serait un ordre universaliste, c'est-à-dire avec des règles supra, non pas interétatiques, mais supra-étatiques, qui s'imposeraient à l'ensemble de la planète. Un droit supra-étatique. Le problème, c'est qu'il y a très peu de domaines dans lesquels on a pu créer un véritable droit supra-étatique parce que ça suppose un accord des États. En général, ils ne sont pas prêts à abandonner leur souveraineté. Mais dans les quelques rares domaines où cela existe, et je pense au domaine du droit pénal international avec la création de la Cour pénale permanente, qui a donc fonction, vocation de réprimer les crimes contre l'humanité à l'échelle mondiale. Alors là, le droit universaliste existe, à prétention universelle, disons, mais il est impuissant. Il est impuissant, on l'a vu dans l'affaire Al-Bashir, du président du Soudan. La Cour a lancé un mandat d'arrêt international qui n'a pas été exécuté. Donc, on disait tout à l'heure, le souverainisme est débordé et l'universalisme, il est impuissant. Mais il n'est pas seulement impuissant dans les cas où il commence à s'appliquer, puisque cette Cour, malgré tout, elle existe. Elle commence à juger des affaires, peut-être pas tous les chefs d'État auteurs de crimes contre l'humanité, mais au moins une partie des responsables. Donc l'impuissance n'est pas totale. Mais alors dans les cas où ça fonctionne, il y a immédiatement un nouveau reproche qui surgit. On dit oui, mais alors il y a un abus de puissance, parce que dans cette cour, par exemple, on ne poursuit pour l'instant que des crimes commis dans les pays africains, comme si le crime contre l'humanité n'était pas commis ailleurs sur la planète.
Ah, il y a
donc
d'autres
il y a un autre
encore.
Risque, abus de puissance, où l'ordre universaliste est impuissant, où il est trop puissant.
Est-ce que ça pourrait être une nouvelle forme d'impérialisme ou de colonialisme?
C'est une dérive possible. Je crois que vous avez raison de le poser dans ces termes-là. Quand on parle d'abus de puissance, on veut dire que sous couvert d'universalisme, il y a un impérialisme qui, en gros, pour le moment, serait reproché aux puissances occidentales. Face au reste du monde, il y a ce risque-là.
Marquons une courte pause et retrouvons-nous dans quelques instants. Thank you. Mireille Delmas-Marty, alors comment s'en sortir dans cet ordre mondial visiblement très ébranlé ?
C'est vrai que je vous ai fait un panorama un peu catastrophe en vous disant d'un côté le souverainisme est complètement débordé, de l'autre l'universalisme est soit impuissant, soit trop puissant. Alors effectivement, que faut-il faire ? Je dirais il faut faire une sorte de bricolage, c'est-à-dire avancer des réponses là où on peut, en combinant différents types de réponses, c'est-à-dire en combinant des réponses purement nationales, mais intégrant le droit international. Par exemple, en matière de changement climatique, on a des principes qui sont posés au niveau mondial par les conventions, par le protocole de Kyoto sur l'interdiction des émissions de gaz à effet de serre, mais ces principes sont relayés par les juridictions nationales et par le droit national, par les législations nationales. Donc, il faut essayer au niveau mondial de combiner les différents espaces normatifs, pour parler un peu le jargon.
Mais sans être dans un système pyramidal.
Sans entrer dans un système pyramidal totalement hiérarchisé où on aurait le niveau national soumis au niveau régional, l'Europe par exemple, pour notre partie du monde, ou le droit interaméricain pour le continent américain, etc. Et puis le niveau global. Alors ce serait un beau schéma, simple en apparence, mais absolument inacceptable politiquement et inapplicable juridiquement. Donc je parle de bricolage parce qu'il faut faire quelque chose de plus complexe que j'ai appelé ailleurs le pluralisme ordonné. C'est-à-dire admettre qu'il n'y a pas une seule réponse, mais une pluralité de réponses, que la réponse peut se situer à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national, au niveau régional, au niveau mondial, mais que cette pluralité, donc ce pluralisme, parce qu'à chaque niveau, il y a une certaine différenciation qui va se faire, ce pluralisme, il faut essayer de l'ordonner. Alors l'ordonner, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire imposer une règle uniforme partout, ça veut dire harmoniser les réponses multiples autour de principes communs, définir au moins des objectifs communs. Et là encore, l'exemple du changement climatique est intéressant, même s'il y a eu cette déception après la conférence de Copenhague, il y a tout de même des objectifs communs qui sont en train d'être posés. C'est très difficile. Pourquoi est-ce si difficile ? Parce qu'on ne peut pas imposer le même rythme à tous les pays alors que leur développement économique est à un stade très différent. Donc, ça fait partie de la complexité du pluralisme ordonné.
On ne peut pas leur imposer les mêmes choses.
On ne peut pas imposer un droit uniforme, mais on peut ordonner des réponses multiples autour de principes. Alors, en gardant ce même exemple du changement climatique, on peut fixer des échéances qui ne seront pas les mêmes pour tous les pays, mais qui, au bout, iront dans le même sens de diminuer les émissions de gaz. J'avais parlé, il y a quelques années, dans un cours que j'avais fait sur le pluralisme ordonné, j'avais parlé d'un droit à géographie variable, parce que chaque zone géographique a une sorte de marge d'appréciation pour tenir compte du contexte local, du contexte économique, du contexte culturel, du contexte politique. Et puis en même temps, un droit à plusieurs vitesses. Et j'employais le terme un peu savant de polychronie pour dire, par exemple en matière de changement climatique, les rythmes peuvent être différents d'un état à l'autre. Alors évidemment, on n'est plus dans la vision simple, hiérarchisée, unifiée que symbolise la pyramide des normes. On est dans une vision beaucoup plus complexe parce qu'il y a des interactions au lieu d'une hiérarchie.
Et ce concept de polychronie, est-ce qu'il peut intégrer l'idée des générations futures dans le droit ?
Oui, alors ça permet de donner une réponse effectivement, y compris à la question des générations futures, mais peut-être pas de façon illimitée. Le problème de la protection des générations futures, c'est toujours le problème de vouloir aller vers une protection absolue. Il faut accepter ce que Paul Ricoeur appelait la finitude humaine. On ne peut pas imposer une responsabilité illimitée, parce que sinon ce serait rendre toute action humaine impossible. Donc on peut introduire la protection, certains devoirs en quelque sorte, à l'égard des générations futures. Il n'y a pas de réciprocité puisqu'elles ne doivent rien, par définition, elles n'existent pas encore. Mais il faut rendre possible leur existence, mais sans pour autant interdire tout progrès
aux générations
technologiques, aux générations présentes. Il y a un équilibre très subtil qui oblige effectivement à une sorte de constat de modestie. La finitude humaine ne permet pas de résoudre tous les problèmes, mais au moins sommes-nous responsables de ce que nous faisons, dans la mesure du possible.
Le pluralisme ordonné, l'expression est de vous, peut-il concilier justement liberté au pluriel et sûreté dans notre monde actuel, dans ce monde, on va dire, un peu de la peur quand même?
Oui, alors il y a plusieurs questions. Il y a une question juridique. Est-ce qu'il suffit d'opposer liberté à sûreté? Je dirais non. Il faut ajouter la nécessité de protéger la dignité de l'être humain, j'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'est dans les droits fondamentaux, c'est peut-être le droit le plus important. Quels que soient les besoins de sûreté, alors l'ambiguïté du mot sûreté fait qu'on peut le remplacer aussi par sécurité. La sûreté, c'est à la fois la sûreté de l'individu face à l'État et la sécurité publique face aux individus. Donc, plutôt que d'opposer sûreté à liberté, il faut introduire cette notion d'égale dignité que j'évoquais tout à l'heure dans l'interdit absolu des traitements inhumains ou dégradants. Donc refuser tout ce qui serait déshumanisation, tout ce qui ravale l'homme au rang de l'animal. Et c'est d'ailleurs une des inquiétudes qu'on peut avoir avec cette dangerosité que j'évoquais tout à l'heure quand elle est distincte de la faute, c'est qu'on réduit l'être humain, non pas à sa responsabilité, mais à sa dangerosité. On suppose qu'il n'a plus sa liberté et qu'il va nécessairement récidiver. Et dans ce sens, il y a une sorte de déshumanisation. Cela étant, derrière votre question, il y a une question moins juridique et peut-être d'une certaine manière aussi importante. C'est est-ce que nous allons vers des sociétés de la peur qui vont être des sociétés d'exclusion?
Ça, c'est toute la dernière partie de votre ouvrage.
Voilà. Est-ce que nous allons vers des sociétés de la peur ou est-ce que nous allons vers une communauté de destin? Et alors, la question, je l'ai posée de façon double en disant société de la peur et ou communauté de destin. Alors, dans un premier temps, j'avais pensé où ? Soit on va vers des sociétés de la peur qui sont des sociétés qui excluent, soit on va vers une communauté de destin, c'est-à-dire qu'une communauté se construit sur une solidarité à l'échelle planétaire. Et puis, en réfléchissant, j'ai pensé que les choses étaient plus complexes et que la peur n'est pas toujours mauvaise conseillère. Elle est mauvaise conseillère quand c'est la peur de l'autre, la peur exclusion, celle qui fait construire des murs. C'est frappant de voir à quel point, à l'époque où les marchandises circulent librement, les informations circulent, mais on construit quand même des murs pour arrêter les migrations. Ça, c'est la peur mauvaise conseillère. Mais en revanche, la peur des catastrophes, elle peut être une peur apportant des réactions de solidarité. Et en ce sens, préparant une communauté de destin, je suis très frappée par ce qui s'est passé tout récemment après le tremblement de terre en Haïti, une sorte de prise de conscience que nous appartenons à la même communauté. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la déception provoquée par la conférence de Copenhague sur le changement climatique est en soi un signe. Pour que la déception ait été si forte, ça veut dire qu'il y avait une attente très forte. Ça veut donc dire que pour beaucoup de citoyens, le problème était déjà planétaire. Beaucoup de personnes ont été déçues parce qu'elles ont le sentiment que nous appartenons tous à une même communauté, que notre destin est le même. Donc cette peur-là, que j'appelle la peur solidarité, elle n'est pas forcément mauvaise conseillère. Elle peut devenir bonne conseillère et indiquer la voie pour aller vers une communauté de destin.
Alors vous faites des propositions, mais aussi vous imaginez de nouveaux outils. À quels nouveaux outils du droit pensez-vous donner naissance pour cette communauté de destin que vous appelez de vos voeux?
Cette communauté de destin, il faut qu'il y ait une volonté. Disons que la peur en elle-même, ce que je reprends souvent cette phrase d'Habermas qui disait « la peur des risques globaux » a en quelque sorte uni le monde en une communauté involontaire de destin. Parce qu'on court des risques en commun, donc involontairement nous constituons déjà une communauté. Mais comment franchir une étape de plus et aller vers une communauté volontaire? Ça, c'est pas le droit qui peut le faire. Ça ne dépend pas du droit, ça ne dépend pas non plus des États, c'est pas sur eux qu'il faut compter, ça dépend des citoyens. Ça dépend de la société dite civile, que je préfère appeler civique. Si les citoyens se considèrent comme appartenant à la même communauté, ils font pression. Et à ce moment-là, ils font pression pour qu'on adopte des outils juridiques. Mais le juridique n'intervient que dans un deuxième temps. Il intervient s'il y a une pression, s'il y a une demande. Et alors, ce sont les instruments qu'on a énumérés au fond tout au long de notre conversation avec les conventions internationales, les institutions internationales pour élaborer et puis pour surveiller l'application des conventions, les juridictions internationales. Ce sont tous ces instruments-là dont on a besoin.
Oui, puis vous parlez de l'élaboration d'un droit de la mobilité. Vous avez
des
réponses quand même.
Je pense que c'est un secteur test. C'est-à-dire le test ultime d'une véritable communauté de destin, c'est la façon de traiter les problèmes d'immigration.
De l'immigration, qui est un problème central.
Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'Europe n'est pas exemplaire. Elle admet la libre circulation à l'intérieur des frontières de l'Union, mais elle se constitue un peu en forteresse de plus en plus à l'égard des migrations venues du dehors. Or là, il y a toute une réflexion à mener, mais pas seulement une réflexion, une prise de conscience, qui d'ailleurs peut être renforcée par les problèmes environnementaux, parce qu'on commence à parler maintenant des réfugiés.
Des déplacés environnementaux.
Voilà. Au début, on avait parlé de réfugiés. Vous avez raison de dire déplacés, parce que le terme est plus large. Et le déplacement ne se fait pas forcément à l'étranger. Il peut avoir lieu à l'intérieur d'un État, ou bien d'un État vers un autre État. Et là, on est bien obligé de répondre à ce problème. C'est pareil, il y a d'abord une prise de conscience de la société civique. Et puis, cette société civique essaye de faire adopter une convention sur les déplacés environnementaux. Et ça, ce serait le signe d'une communauté en marche.
Et en ce moment, c'est un projet. Qui s'occupe de ça?
Il y a des organisations non gouvernementales qui ont saisi plusieurs organes de l'Organisation des Nations Unies. Donc, on est en train de passer, disons, de la phase civile ou civique à la phase publique. Mais évidemment, ce genre d'instrument prend des années avant d'être adopté, à moins d'un événement qui accélère le cours de l'histoire. De même que le 11 septembre a plutôt ralenti le cours de l'histoire en termes d'internationalisation de la justice pénale, de même tel ou tel événement lié au changement climatique, par exemple, pourrait accélérer la prise de conscience. Peut-être que le désastre d'Haïti a accéléré la prise de conscience de l'appartenance à une même communauté.
Vous pensez qu'on peut déterminer de nouveaux biens communs à l'humanité, en dehors du patrimoine architectural ou des grands espaces verts?
Oui, je crois que le concept de bien commun est certainement un des concepts essentiels pour construire un droit commun de l'humanité. Michel Serres en a un peu parlé par a contrario dans son dernier livre qui s'appelle Le mal propre. Le mal propre, c'est le contraire du bien commun. Et à travers l'intitulé un peu provocateur du mal propre, il indique une piste de réflexion vers le bien commun. Et je préfère cette présentation-là à la notion qu'il avait utilisée quelques années avant de contrat naturel. Parce que cette idée de contrat me paraît pas suffisante, notamment face aux générations futures. Il n'y a pas réciprocité entre les générations futures et nous. Donc le terme de contrat ne me paraît pas adapté. Il ne me paraît pas non plus adapté face à la nature, face aux vivants non humains. On ne va pas passer de contrat véritablement. Il y a une asymétrie entre les hommes qui sont les seuls êtres vivants responsables et les générations futures ou le vivant non humain. Donc, plutôt que de parler de contrat, je parlerai de devoir et de devoir fondé sur la protection d'un bien commun.
D'un bien public mondial.
Alors, bien public mondial,
c'est encore autre chose.
C'est un peu différent. C'est un terme qui a été inventé en économie, par les économistes, qui est utilisé par la Banque mondiale notamment, par l'Organisation des Nations Unies aussi, le programme pour le développement. Bien public mondial, c'est un bien qui est non exclusif et non rival, c'est-à-dire le climat par exemple. Je peux m'en servir et vous pouvez vous en servir sans que ça diminue mon propre usage. C'est ça la définition des économistes. Alors le problème, c'est que dans cette catégorie, il faut entrer beaucoup de termes qui, pour les juristes, ne sont pas tous des biens. Il faut entrer, par exemple, la sécurité économique et financière. Juridiquement, ce n'est pas une catégorie qui entre dans le bien au sens traditionnel, disons. Alors le bien public mondial, c'est un outil qui fait entrer la réflexion économique, qui rapproche la réflexion économique de la réflexion juridique, qui n'est pas inintéressant dans la mesure où on arrivera à créer une synergie à travers les biens publics mondiaux entre l'idée des droits fondamentaux et l'idée d'un marché et d'une efficacité liée au marché. Mais je pense que l'objectif, si on veut aller au plus directement vers une communauté de destin, c'est de parler de biens communs.
On voit qu'est en marche peut-être une nouvelle justice, mais jusqu'à présent, on a beaucoup utilisé le principe de précaution. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Quelle place peut-on lui trouver dans cette nouvelle structure possible ou envisagée?
Le principe de précaution, il est très important par rapport aux risques globaux dont nous avons parlé.
Pour l'instant, c'est l'arme d'aujourd'hui.
C'est un principe qui est au fond assez simple, qui consiste à dire quand il y a des risques qui ne sont pas avérés, on n'est pas sûr que le risque existe. Mais s'il existe, il aboutira à des résultats graves et ou irréversibles. Donc là, la sagesse, c'est de faire des recherches avant de s'engager dans une action qui implique de tels risques. Alors, on a souvent dit le principe de précaution, c'est l'immobilisme. Moi, je dis non, c'est plutôt un principe d'anticipation, c'est-à-dire qu'on perçoit qu'il y a des risques qui ne sont pas avérés, mais les résultats seraient graves ou irréversibles, alors on doit mener des recherches. C'est quelque chose qui conduit donc à ne pas agir immédiatement, mais à essayer d'anticiper. En revanche, quand on applique le principe de précaution à des êtres humains, à ce moment-là, c'est très différent, parce qu'au contraire, on agit à leur égard. On vous enferme parce que il y a peut-être un risque
là, c'est la première partie
que vous
récidiviez.
Et là, le principe de précaution, le même mot, la même expression, principe de précaution, prend un sens beaucoup plus offensif. Le principe de précaution n'amène pas à s'abstenir, mais amène à incarcérer une personne, à la priver de sa liberté. Donc, il y a une sorte d'abus de langage d'utiliser l'expression de précaution appliquée à des risques ou appliquée à des personnes humaines.
Vous appelez beaucoup à faire très attention à toutes ces confusions du vocabulaire dans
votre
livre.
Oui, on peut dire que dans ce cas-là, il y a une confusion des termes.
Donc on voit que vous appelez à la fois à un droit de la mobilité, à continuer et à poursuivre tous ces principes de précaution également.
Oui, et plus largement, il faut innover. Au fond, l'être humain innove en permanence. Dans le domaine des technologies, c'est même stupéfiant. Mais je dirais qu'il faut innover aussi dans le domaine juridique. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'avais intitulé mes premières années de cours « Les forces imaginantes du droit ». On a besoin de nouveaux principes, de nouveaux modèles, de nouveaux modes de pensée juridique. C'est ça qui me paraît indispensable si on veut faire face à ce monde dangereux dont nous avons parlé.
Merci Mireille Delmas-Marty de nous avoir donné votre éclairage sur les réponses possibles du droit, sur l'enchevêtrement des droits. Merci de nous avoir montré que la question de la sécurité n'était pas seulement une question du débat franco-français et de bien nous avoir situé cette grande question de la sécurité dans le monde qui est le nôtre depuis la nouvelle donne du 11 septembre. Merci aussi de nous faire comprendre la finesse et la complexité des enjeux. Tel est le grand mérite de votre livre qui s'intitule, rappelons-le, « Libertés et sûretés dans un monde dangereux ». Un petit peu plus de 200 pages à lire et à méditer assurément. Un grand merci.
Merci à vous.